Vous pouvez courber la tête pour la prière. Notre Père céleste, toi, le grand Dieu puissant, Jéhovah, qui depuis le commencement, comme un tonnerre a parlé et a dit que la lumière soit et la lumière fut. Jéhovah, envoie-nous la lumière aujourd'hui. Envoie la lumière sur la parole et sur le jour dans lequel nous vivons. Envoie la lumière, Seigneur, accorde-le. Envoie ton peuple partout dans le monde entier. Que le feu du réveil puisse jaillir sur les montagnes, sur les vallées, dans les vallées et dans le monde entier. Bénis tous et bénis chacun des prédicateurs établis par Dieu. Inspire leur vie. Seigneur, dans ce moment, des personnes reçoivent le Saint-Esprit dans le monde entier. Des personnes sont guéries dans le monde entier. Comme nous te remercions pour toutes ces bénédictions qui ont été rendues possibles par ton Fils qui mourut. Aujourd'hui, nous nous rappelons, n'est-ce pas, à ce jour de Pâques, à ce jour, à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 années d'ici. Oh, que ton Esprit puisse venir sur nous. Accorde-nous la partie du pain de la vie que nous avons besoin aujourd'hui, dont nous avons besoin aujourd'hui. Seigneur, nous sommes venus des montagnes, nous avons ici passé quelques jours ensemble. Nous sommes ici comme sous une ombre, comme à l'ombre pour nous réjouir et dans la communion avec toi et pour écouter ta parole. C'était vraiment rafraîchissant. Et encore une fois, ce soir, Seigneur, que tu puisses sauver toutes les âmes qui sont perdues et guérir les malades. Et pense aussi à la sœur qui a été guérie, qui avait un pied plus court que l'autre. Nous te remercions, Seigneur. Ça montre que le Dieu vivant est parmi nous. Et aussi la sœur qui a été guérie de son goître et qui remercie et qui loue tout ce que tu as fait pour elle. C'était quelque chose de particulier. Nous t'en sommes très reconnaissants. Bénis, Seigneur, bénis ta parole et que ton serviteur, tu puisses le réfugier, le cacher en toi et circoncire les lèvres et les oreilles pour parler, pour entendre. Amen. Nous voulons maintenant ouvrir les Écritures et lire un texte dans l'Écriture. Je voudrais lire deux versets. D'abord, dans Ésaïe, chapitre 53, je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et ensuite, dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25, nous voulons lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchetée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bon, ici, il parle de Jésus. Ça, nous le savons. Maintenant, nous lisons dans Matthieu, chapitre 11, à partir de versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Bon, voilà, Dieu voulant, si le Seigneur le veut, je voudrais utiliser un texte de cela et venir à parler brièvement de ces choses. Le Seigneur demande que cela est possible et ensuite nous allons écouter encore des témoignages. Je voudrais choisir ce sujet. Dieu se cache lui-même dans la simplicité. Vous savez que Dieu est tellement grand et il se cache lui-même dans la simplicité et se révèle de la même manière tel qu'il s'est caché. Et Dieu est si grand qu'il peut se rendre si simple. Et c'est justement ça qui le rend si grand. Beaucoup manquent de le reconnaître, dans ses chemins simples dans lesquels il se cache. Nous savons que les hommes ne peuvent pas le faire. Les hommes ne peuvent pas être assez grands et en se rendant simple. Qu'est-ce qui rend Dieu si grand? C'est parce qu'il peut se révéler de manière si simple. Vous voyez, tout ce qu'on appelle grand est aux yeux de Dieu pas grand du tout. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous l'étudions, nous voyons comment est-ce que Dieu, lui, il fait les choses. Et il ne peut jamais changer son programme. Il ne peut jamais reprendre ce qu'il a dit. Moi, je peux faire quelque chose pendant cette année et penser que c'est juste. Ou bien peut-être même l'année prochaine ou bien la semaine prochaine, je peux déjà dire, non, je m'étais trompé. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Il est infini. Sa première décision et sa dernière décision doit demeurer la même. Vous voyez, la décision est prise une fois pour toutes. À chaque fois, elle est toujours la même et elle est parfaite. Si un jour, si Dieu, une fois, agit d'une certaine manière et que la même circonstance a lieu et qu'il agit différemment, alors ça veut dire que étant en train de prendre une autre décision devant une situation, ça veut dire qu'il s'était trompé lors de la première décision qu'il avait prise devant la même situation. Alors, si quelqu'un a besoin du salut et que Dieu a sauvé l'homme, le premier homme, qui vint à lui d'une manière précise, il faut aussi qu'il sauve le suivant qui vient à lui sur le même fondement, sur la même base. Si quelqu'un vient à lui qui est malade et qui veut être guéri, et que Dieu le guérit, il faut que cela soit ainsi avec le suivant jusqu'au dernier. Il ne peut pas changer, il est le même. Tous ceux qui sont venus sur la même base. Vous voyez, Dieu a fait un programme, et quand l'homme au commencement a péché, l'homme a cherché un propre chemin. Il a pris des feuilles de figuier, mais ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché. Dieu, lui, il a fait un chemin pour que les hommes puissent de nouveau avoir communion avec lui. Vous voyez? Et c'est lui qui, à la place de l'homme, a apporté un sacrifice. Vous voyez? Et c'est ainsi, Dieu peut que rencontrer les hommes là, sous le sang versé, qui a coulé à notre place. Vous voyez, nous aujourd'hui, Et les dénominations, les catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plusieurs marches en montant et il y a des eaux et il y a ceci et cela qui sont vénérés et honorés. Et il y a certaines épines qui sont ici et là. Et ils disent que chaque épine devrait être celle qui était dans la main du Seigneur. Que ce soit une épine ou bien un bout de la croix, ou bien ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, Dieu, lui, il nous envoie son esprit. Pas quelque chose en mémoire, pas un objet, une épine ou bien quoi que ce soit. Non, il s'agit... La mémoire qu'il nous apporte, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne de l'expérimenter aujourd'hui comme les premiers chrétiens l'ont expérimenté. C'est ainsi qu'il a transmis ces choses à l'Église. Vous voyez? Car Jésus-Christ disait, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est ainsi que sur l'Église, l'Esprit a été déversé le jour de la Pentecôte. Au commencement, après que l'homme ait péché, c'est ainsi que cela montre la nature de l'homme. L'homme veut toujours se cacher devant Dieu. Et il veut toujours se faire une propre protection, une propre religion pour se cacher derrière cela. Car le mot religion veut dire couverture, voile. Mais il y a seulement un seul endroit où Dieu rencontre l'homme et ça, c'est sous le sang versé. Dieu a rencontré Israël seulement sous le sang versé. Aujourd'hui, nous avons essayé toutes choses, des organisations, des dénominations, l'instruction. Nous avons de la technologie scientifique. Nous avons essayé toutes sortes de choses pour apporter de l'union. Et tout cela a failli. Il n'y a seulement qu'un seul endroit où les personnes peuvent se rencontrer et avoir communion avec Dieu et les uns avec les autres. C'est sous la croix où chacun individuellement accepte le sang de Jésus-Christ. Ça n'a pas d'importance ce que pourrait être la façon d'être de chacun. C'est là que nous devenons un, là en croyant à ce qui s'est passé sur la croix, là sur la croix où Jésus mourut. Vous voyez, nous sommes devenus un âge scientifique. Tout doit d'abord être prouvé de manière scientifique. Et comme cela a été annoncé à l'avance dans la Bible, que les hommes vont devenir sages, etc. Nous vivons dans cet âge où, et plus nous entrons dans la science, et plus nous éloignons de Dieu. Vous ne pouvez pas éprouver Dieu de manière scientifique. Tout ce que Dieu fait est surnaturel. Vous ne pouvez pas prouver Dieu. Sinon, si vous pouviez prouver l'existence de Dieu, si vous pouviez prouver Dieu, vous n'auriez plus besoin de foi. Celui qui veut venir à Dieu, il doit croire que Dieu existe, que Dieu est là. Toute l'armure du chrétien est fondée sur la foi. Le docteur F.F. Osborne est l'homme que j'ai beaucoup estimé. Il était mon manager il n'y a pas longtemps et il a écrit le livre « Regardez à l'invisible ». Regardant à l'invisible. Prenez l'armure de Dieu et tout ce que Dieu fait est surnaturel. L'amour, la paix, la joie, la douceur, toutes ces choses-là sont des attributs surnaturels. L'amour. Allez par exemple dans une pharmacie et dites « J'aimerais acheter de la paix ou bien de l'amour ». Tout cela, c'est des choses surnaturelles. Tout ce que Dieu accorde, toute son armure, son église, est surnaturelle. Elle n'est pas une organisation. Elle est un organisme surnaturel. Et c'est ainsi que des personnes, par le Saint-Esprit, naissent dans l'église. Dieu a rendu les choses simples. Dieu ne fait rien de compliqué. Il ne s'agit pas ici de devenir membre ici, de devenir membre là, et de se remplir, d'accepter beaucoup de théologie et d'instruction. Non, nous nous éloignons toujours plus de Dieu par l'instruction. Aujourd'hui, nous sommes tellement scientifiques. d'une manière que nous savons exactement combien de molécules sont nécessaires, combien d'atomes sont divisés, comment une bombe atomique est construite, est fabriquée. Et pour finir, en fait, on ne comprend même pas, on comprend rien de comment est-ce que tout ça arrive. Hein? Et est-ce qu'on peut, après avoir compris toutes ces choses, est-ce qu'on peut même expliquer comment est-ce que la vie est dans un gazon? Dieu voit dans la simplicité. C'est révélé. Qui peut expliquer la vie dans une tige? Dieu est simple. Et il se rend tellement simple que les sages de ce monde ne peuvent pas le comprendre. Et Jésus-Christ disait, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. N'essayez pas de venir à Dieu par l'instruction. Plus vous pensez être instruit et plus vous vous éloignez de Dieu, de lui. Dieu est seulement atteint. On peut seulement atteindre Dieu par la foi. C'est seulement comme ça que vous pouvez rencontrer Dieu. Au commencement, les hommes ont perdu leur communion avec Dieu. C'est seulement par la foi que vous pouvez rencontrer Dieu. Et pas en voulant expliquer, mais croire les choses que vous ne pouvez pas expliquer. Pas des programmes d'instruction, non. Et malgré toute cette instruction-là, nous passons à côté de ce gazon simple sans le considérer. Et nous envoyons nos enfants à l'école de théologie et séminaire. Et j'espère que vous comprenez. Je ne suis pas en train de soutenir le manque d'études et d'instruction. Je veux seulement montrer à tel point ces choses-là sont insensées. Vous savez ce que je veux dire? Regardez comme dans mes assemblées et mes réunions. Dans mes réunions, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui sont allées à d'autres personnes, et cela n'a pas réussi, alors qu'ils étaient allés quelque part d'autre et qu'ils avaient demandé qu'on prie pour eux. Parfois, on dit, mes frères, Robert, prie pour 500 personnes, et toi, tu pries seulement pour 5 personnes. Sûrement que il a, après 50 plus, il a plus de témoignages que moi, 50 plus. Mais en fait, de toute manière, c'est la foi de chacun. Il s'agit de la foi de l'individu pour lequel on a prié. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, il y a un médecin qui est assis. Par exemple, si vous allez chez le médecin et que vous dites que j'ai mal à la tête, etc., et il y a quelque chose qui ne va pas avec mon estomac, et qu'il vous écrit une ordonnance, seulement comme ça, un calmant, ou bien alors une aspirine, et il vous fait repartir. Alors ça veut dire qu'il n'est pas un vrai docteur. Non. Si vraiment il vous l'intéressez, votre cas l'intéresse, il va vous examiner, il va faire un examen général jusqu'à qu'il laisse trouver la raison de cette douleur, l'origine. Et si par exemple une femme est malade, alors il y a seulement un seul chemin qui est correct. Pour constater l'origine de la maladie, on doit connaître l'origine. Vous voyez, si par exemple, je suis sur la plateforme et que je me tiens devant l'assemblée, alors Dieu me révèle ceci, cela, et me révèle, voilà, ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tu as fait ceci, cela il y a 10 ans. Mets cela en ordre. Vous voyez. Et si ils avouent qu'ils promettent qu'ils le feront. Alors, le ainsi dit le Seigneur suit. Et vous pouvez faire des enquêtes pour savoir si cela a un jour failli ou pas. Et que ce que le Seigneur a prononcé ne se serait pas accompli. D'abord, vous devez trouver l'origine du mal avant de pouvoir trouver le traitement. Vous voyez, aujourd'hui, on essaye d'apporter des gens dans quelque chose par l'instruction, par l'intelligence. Comment est-ce qu'ils pourraient rencontrer Dieu de manière scientifique? Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu par la science, mais seulement par la foi, vous pourrez reconnaître Dieu. Je dis la chose suivante. Une personne s'assied là, il peut regarder... elle peut regarder donc par exemple, à une fleur ou bien à un bouquet de fleurs. Mais et si cette personne a vraiment réfléchi sérieusement à ce qu'elle voit, alors elle pourra peut-être mieux comprendre Dieu, reconnaître Dieu, que tous ces gens-là dans des écoles de séminaires et de théologie pourraient comprendre et reconnaître Dieu. Vous voyez, Dieu se révèle dans la nature. C'est une vie qui se manifeste. Alors la mort, ensuite la résurrection. D'où viennent toutes ces différentes fleurs et couleurs? Pourquoi est-ce qu'une fleur est différente que l'autre? Dans sa couleur et en tout, et tel que la semence meurt et est pourrie et de nouveau revient à la vie. Vous voyez, Dieu se révèle dans la simplicité. Et ensuite, il se cache dans la mort et est révélé dans la résurrection. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Vous voyez, il s'agit de ce que vous regardez, de ce que vous voyez et de ce que vous croyez. Vous voyez, vous pouvez reconnaître plus de choses de Dieu par la foi que par autre chose. Et c'est ainsi que Dieu peut se rendre tellement simple, mais l'instruction ne pourra jamais comprendre Dieu. Vous voyez, Dieu se rend si simple et il se cache devant les sages et les intelligents. Maintenant, pensez à cela. Il se cache devant les sages et se révèle aux humbles, aux enfants. Vous voyez, la Bible le dit dans Ésaïe 35 que même un idiot, un insensé ne pourra pas s'égarer. Si vous essayez de le comprendre, de l'étudier, non. Vous vous éloignez toujours plus de Dieu. N'essayez pas d'expliquer, mais croyez simplement Dieu. Il se cache devant les sages et il se révèle et il se montre aux simples. Les hommes ne peuvent pas être assez grands, vous voyez. Oh, ils pensent, je sais plus que les autres. Je connais plus que les autres. Aujourd'hui, regardez, les églises sont comme ça. Elles sont orgueilleuses. Elles sont fières. Oh, quand ils disent, notre pasteur, notre prédicateur, il a ce diplôme et ses diplômes. Il a ses études et ses études. Qu'est-ce que cela signifie? Même s'il avait tous les diplômes qui existent et il avait des grades académiques qu'on pourrait avoir, cela ne signifie rien du tout. Et ici, ce n'est pas un endroit où on peut raconter des blagues. Mais cela n'a rien à voir à faire avec une blague. Non, vous reconnaissez... Cela n'a rien à voir à faire, non. Vous reconnaissez Dieu seulement par la foi. Cela a été prouvé. Alors que Jésus vint sur la terre, vous voyez, les hommes les plus saints qui étaient là, si on avait seulement pu pointer le doigt sur une chose qu'ils auraient fait, on aurait dû les lapider. Et Jésus disait, votre père est le diable et vous faites ses œuvres. Qui aurait pu pointer le doigt ces gens? Personne. Aujourd'hui, la cigarette fumée, l'idolâtrie, tout est désigné comme péché. L'adultère, l'immoralité, tout cela. Ce n'est même pas le péché de quoi il s'agit. Non. Ce sont seulement des attributs du péché. Il n'y a seulement qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui ne peut pas croire que ce livre est la parole de Dieu, il est déjà condamné. Jésus-Christ dit autrefois, qui peut me convaincre d'un péché? Est-ce que tout ce qui a été annoncé à l'avance de moi n'a pas... ce qui est écrit de moi, ce n'est pas accompli. Est-ce que je n'ai pas exactement fait ce que l'Écriture dit? Sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui peut me convaincre d'un péché? Oh, ils ont fait ceci, cela, ils avaient des œuvres, ils ont tenu leur ils ont vécu selon leur doctrine, selon leur façon de voir. Dieu, mais Jésus ne les a-t-elle pas mis de côté et n'a pas dit, vous êtes tous du diable, dans Jean 8. Ils avaient des œuvres, ils étaient d'apparence pieux. Est-ce qu'ils ne feraient pas la même chose aujourd'hui s'ils regardaient dans les églises? Bien sûr. Par des doctrines, nous nous sommes liés et nous sommes dans le même désordre qu'ils étaient autrefois. Et quand Dieu se révèle dans la simplicité, ils ne le reconnaissent pas. Oh, comment est-ce qu'ils pensent en fait? Ils sont dans un désordre. Et ils pensent que si ce que Dieu fait ne vient pas comme eux, ils le pensent, alors ça veut dire que cela ne vient pas de Dieu, cela n'est pas en ordre. C'est pour cette raison qu'il y a tous ces problèmes. Pensez à cela. Le chemin pour aller en haut va vers le bas. Celui qui s'élève va être abaissé. Qu'est-ce que c'est? En haut ou bien en bas? Est-ce que le nord, le pôle nord est en haut, le sud pôle, le pôle sud? Vous dites l'étoile du matin et l'étoile du soir, mais c'est la même étoile, bien sûr. Car la même étoile qui a brillé le soir avait déjà brillé le matin. Vous voyez? Ce n'est même pas compliqué. Non, c'est simplement de croire Dieu. Vous voyez le chemin pour aller vers le haut et d'aller vers le bas. Nous devons croire Dieu et le prendre à sa parole. Le chemin pour aller vers le haut, c'est d'être humble, d'être petit. Non, nous ne devons pas essayer d'expliquer Dieu, de sonder Dieu, de fonder Dieu. L'Esprit de Dieu va accompagner chaque parole d'un amen. Chaque parole de Dieu d'un amen. Car c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Et si le Saint-Esprit est en vous, lui qui a écrit la parole, comment est-ce qu'il peut dire, ça c'était autrefois seulement, mais aujourd'hui ce n'est plus valable. Comment est-ce qu'il peut être écrit, par exemple, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et que vous pourrez dire, oui, peut-être que cela va s'accomplir une fois. Non, les gens font toujours la même erreur. Ils honorent Dieu pour ce qu'il a fait et ils regardent à ce qu'il va faire et ils ne prennent pas part à ce qu'il fait maintenant, dans le présent. C'est la même chose avec les hommes. Vous devez sortir de cet esprit, de cette pensée humaine, de cette façon de penser humaine, et vous devez recevoir les sentiments, les pensées du Christ. Dieu agit toujours dans l'humilité, pas dans quelque chose de grand, par des connaissances et par une instruction théologique. Dieu se révèle de manière simple. Ce sont les hommes qui rendent des choses compliquées. Mais Dieu, lui, il est tellement grand et il se révèle de manière très simple. Quand des hommes ont un peu d'instruction et ont étudié, ils pensent savoir tellement beaucoup de choses qu'on ne peut plus rien leur dire. Mais quand quelqu'un reste humble et sait qu'il ne sait rien et qu'il n'a rien à valoir et rien à prouver, c'est ainsi que Dieu, qui est grand, pourra se révéler à lui de manière humble, dans la simplicité. De manière simple, c'est la grande différence. C'est ainsi que Dieu se révèle, de la même manière telle qu'il se cache, c'est-à-dire dans la simplicité. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Et c'est ainsi que les hommes passent sans constater cela et remarquer cela. Pourquoi est-ce que Esaïe dit, qui a cru notre prédication? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et Jésus disait, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie de ce que tu as cacher ces choses-là aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux enfants. L'humilité, la simplicité, c'est ainsi que Dieu se révèle. Vous voyez comment est-ce que Dieu le fait de manière simple. Dans le jardin d'Éden, on avait seulement besoin de croire sa parole et de vivre. Car Dieu avait dit, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit parce que tu as appris ceci et cela, mais il a dit, voici ma parole, crois ma parole, et vous vivrez, et tu vivras. Ève n'a pas rejeté toute la parole de Dieu. Non, elle a seulement rejeté une petite partie qu'elle n'a pas crue réellement. C'est ainsi que je voudrais vous poser une question. Bien-aimés frères et bien-aimés prédicateurs, vous voyez, tout cela s'est passé parce que Ève a seulement méprisé et n'a pas cru une petite partie de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que nous allons pouvoir continuer à marcher et à atteindre le but si nous ne croyons pas tout ce que Dieu a dit? Regardez les enfants, chaque enfant qui souffre, chaque guerre, chaque famine, chaque meurtre, chaque maladie, tout ce qui existe, tout cela seulement parce que une petite partie de la parole de Dieu n'a pas été réellement crue. Est-ce que vous croyez que les hommes peuvent revenir à lui s'il continue à ne pas croire à toute la parole de Dieu? Revenir à Dieu est seulement possible si nous croyons tout ce que Dieu a dit. Et si vous pensez que ce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas besoin de le croire. Non, vous devez croire tout. Ça n'a pas d'importance et quelle apparence cela a. Croyez même si vous ne le comprenez pas. Croyez-le malgré tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous devez seulement le croire au moment où c'est la parole de Dieu. C'est ainsi encore aujourd'hui avec nous. Comme une armée qui doit aller en guerre, nous avons partout des personnes qui vont devant, comme des espions, ils vont avant l'armée. Et nous les avons partout. Nous les avons en Angleterre, nous les avons dans d'autres pays, il y a des espions partout. Nous les avons ici car il s'agit de la guerre. Mais vous savez que la plus grande guerre qui a lieu, c'est la guerre spirituelle. Bon, Dieu, lui, il savait que cela allait se passer. Et c'est peut-être raison qu'il a déjà, à l'avance, pour ses enfants, pris soin de tout. Vous voyez, nous avons un héros dans notre armée. Et nous savons qu'un jour, il va être manifesté. Et nous avons aussi dans notre armée un casque. Et nous savons qu'un jour, nous allons devoir l'utiliser. Et l'entraînement est très, très, très difficile. Car un jour, il sera nécessaire d'utiliser cette armure. Quand on arrive dans le champ de bataille, il faut s'entraîner. C'est ainsi que nous devons le faire aujourd'hui. Nous devons prendre toute la parole de Dieu, toute l'armure de Dieu, chaque parole, car c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons en avoir besoin. Nous avons tout l'évangile est à notre disposition. Vous voyez, Dieu a protégé l'Église, c'est-à-dire par la protection de sa parole. Sa parole. Elle a seulement besoin de croire la parole. C'est sa protection. Mais Satan, par son interprétation, est venu. Et il a seulement dans un petit côté brisé la barrière. Pas plus avait besoin d'avoir lieu. Il a dit, non, vous ne mourrez pas. Vous voyez, Ève est venue avec un petit doute. Et c'est ainsi que cela arrive à l'église aujourd'hui. Avec un petit doute d'une partie de la parole de Dieu. Déjà, vous allez de l'autre côté de la barrière. Vous sortez de la protection. Et ne pensez pas que Dieu va vous épargner en pensant, oh, j'appartiens à l'église, à un groupe ici et là. Non. Vous devez croire chaque parole de Dieu et la mettre en pratique. Ça, c'est le seul chemin. Ça, c'est le programme de Dieu au commencement. Ça, c'est le programme de Dieu encore par toutes les différents âges et les générations. Ça, c'est le programme de Dieu aujourd'hui. L'Église doit rester dans la parole de Dieu en croyant sans rien retrancher, sans rien ajouter à la parole de Dieu originale, sans interprétation. C'est sa protection. Vous voyez, l'Église doit rester protégé, caché dans la parole de Dieu originale. C'est seulement comme ça que vous êtes sûr. Noé de son temps, nous avons eu ce matin déjà à parler de cela. C'était un âge intellectuel. Les hommes étaient intelligents et sages. Et Dieu est descendu pour sauver les élus. Croyez-vous que Dieu a une église élue? Bien sûr, il a. Et Dieu vint pour sauver les élus. Les autres sont seulement des gens qui suivent. Car le nom des élus seuls sont écrits, les noms sont écrits déjà dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et la Bible dit que tous seront séduits, tous seront séduits en dehors de ceux, donc sauf à excepté ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Apocalypse 13. Seulement les élus, sinon tous seront séduits. Nos noms ont été écrits avant que l'agneau soit immolé. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit était seulement avec ceux qui avaient accepté réellement la parole. Mais Satan, Il a essayé et ça lui a réussi à éloigner les hommes des Écritures, de la parole de Dieu, par des interprétations. C'était toujours la même chose. Si vous pouviez le voir, que le problème était constitué là. Si il réussit à vous faire sortir de la parole de Dieu originale, alors vous, il vous a déjà à sa soumission, à faire sa volonté, soumis à lui, dans son piège. Croyez seulement la parole de Dieu pour vivre. Pour Ève, ça avait suffi de seulement accepter un peu de la sagesse du monde. Ça avait suffi. Aujourd'hui, on dit le docteur tel et tel, un théologien, va parler. Si ce qu'il dit est contre les Écritures, ça n'a pas d'importance qui c'est. Laissez cela tranquille. N'ayez rien à voir avec cela. Que ce soit même le pape à Rome, la hiérarchie ou bien un archevêque de Canterbury ou bien qui que ce soit. La parole de Dieu seule est la vérité. Tout le reste est du mensonge. Vous voyez, vivez par la parole de Dieu. Si Dieu a donné une promesse, il faut qu'il l'accomplisse. S'il ne l'accomplit pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Et Dieu ne va pas prendre un instrument de mesure quelconque pour juger le monde. Il ne peut pas juger le monde selon l'Église catholique. Il y a plus de 900 différents groupes et églises et communautés et religions. Les baptistes et les méthodistes et tous disent, oui, nous avons la vérité. Non, la parole seule est la vérité. Celui qui ôte une parole, retranche ou bien en ajoute une, sa partie sera ôtée du livre de la vie, de l'arbre de la vie. Apocalypse 22. Dieu va juger les hommes selon sa parole, avec sa parole, par sa parole. Dans ce grand temps de Noé, Dieu avait envoyé un message. Il n'a pas envoyé un ange, il a envoyé un fermier. Un fermier avec un message simple. Est-ce que vous pensez qu'ils ont accepté le message de Noé? Non, c'était trop simple. Il était trop simple. Si ce n'était pas simple, il aurait accepté. Si quelqu'un était venu, quelqu'un de grand, un grand personnage, il avait dit, je vais vous dire, comment est-ce que vous pouvez encore construire une pyramide plus grande, plus belle? Mais qu'est-ce que c'était? Un message. Et le messager disait, la pluie va tomber. Les sages pensaient, mais il n'y a pas d'eau là dans les nuages, là on a calculé tout. Comment est-ce qu'il peut tomber une telle pluie? Si Dieu, lui, il a annoncé la pluie, alors ça veut dire que la pluie viendra. Et même si la pluie n'existe pas dans les nuages, s'il n'y a pas d'eau, il va la créer là. Ça n'a pas d'importance ce que quelqu'un d'autre dit. Si Dieu dit quelque chose, il se tient sur ce qu'il a dit. Ça, c'est le message. Et autrefois, Noé ainsi s'est sauvé lui-même et sa famille. Cela semblait radical. Mais ils n'avaient pas besoin de faire autre chose que d'entrer dans l'arche. Dieu, de manière très simple, a sauvé le monde. De manière très humble. Vous voyez, Dieu, d'une manière nouvelle encore, est resté caché pour les sages et les intelligents. Vous voyez, ceux-là, avant le déluge, ils étaient exactement intellectuels et avancés et intelligents comme nous aujourd'hui, si ce n'est même plus, peut-être même plus. Ils ont construit du temps de Noé des choses que nous n'avons pas aujourd'hui. Et ils avaient des couleurs qui pouvaient mettre ensemble, qui pouvaient durer longtemps. Ils avaient des peintures. Ils ont construit à l'époque de Noé des pyramides, etc. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire des pyramides. Peut-être qu'ils étaient même plus intelligents et avancés que nous aujourd'hui. Des hommes instruits, intelligents, sages de ce temps de Noé. Et Dieu a envoyé un message si simple. Et ils ont trébuché à cause de la simplicité du message. Ils l'ont rejeté. Et c'est ainsi que la justice de Dieu a exigé le jugement. Et le monde a été condamné. Et est allé dans le déluge, dans la perdition. C'est seulement Noé, le prédicateur juste, a été sauvé avec les siens. Dieu s'est caché dans la simplicité et s'est révélé dans la simplicité. Vous voyez, oh, vous dites, bien sûr, c'était ainsi. Le temps de la délivrance est venu. Et vous savez que quand ce temps-là arrive, comme par exemple avec Israël, alors que les délivrances étaient venues, leur temps de délivrance était venu, Noé avait envoyé un homme simple. Et pardon, Dieu avait envoyé un homme simple. D'une famille simple, d'une tribu simple, appelée Lévi. Moïse est allé. Il était d'abord instruit. Il était sage, il était intelligent. Auparavant, il pouvait même enseigner la sagesse aux Égyptiens. Il était un homme militaire. C'est ainsi que l'histoire nous l'apprend et nous l'enseigne. Et cela montre que vous ne pouvez rien faire pour Dieu, avec tout votre savoir, avec tout votre connaissance militaire, etc. Comment est-ce que Moïse, a failli de manière misérable? Dieu l'a permis. Dieu l'a laissé devenir intelligent. Il lui a donné des instructions. Et pendant 40 ans, il a été instruit. Et après, il a laissé 40 ans dans les déserts pour détruire son intelligence et son instruction. Et c'est seulement pour qu'il puisse être délivré de toute cette instruction. Il est resté 40 ans dans les déserts. Le problème aujourd'hui consiste à cela. Nous pensons toujours devoir nous remplir de savoir. Au lieu de nous vider, il faut qu'il y ait un vide. Si nous voulons que Dieu nous remplisse, mais nous nous remplissons nous-mêmes de toutes sortes de connaissances, au lieu de nous vider pour que Dieu lui puisse nous remplir. Vous voyez? Aujourd'hui, nous prenons des personnes, nous les enseignons à faire ceci, à faire cela, et qu'ils puissent agir de manière étrange et faire les choses. Mais nous avons besoin de Dieu et de rien d'autre. Nous avons besoin de Dieu. Les programmes faits par les hommes ne servent à rien. Vous voyez? La Pentecôte, exactement. Pas seulement appartenir à une église et accepter un baptême. Qu'est-ce que c'est tout cela? Il s'agit d'une naissance. Et la Bible dit, le Seigneur a dit, bénissons ceux qui ont soif et faim de la justice. Ils seront rassasiés. Pourquoi est-ce qu'un homme doit avoir faim? Pourquoi est-ce que les femmes vont dans la rue avec des habits immoraux? Elles essayent de répondre à une faim. Elles ont faim de quoi? Vous voyez? Ils ont été créés pour avoir faim. Elles ont été créées pour avoir faim. Mais comment est-ce que vous osez répondre à cette faim sainte par quelque chose d'autre? Dieu, lui, il vous a fait pour avoir faim de lui. Pourquoi est-ce que vous essayez de répondre à cette faim avec les choses du monde? Par les choses du monde. Vous n'avez pas le droit de le faire. Comment est-ce que vous osez le faire? Par des jeux de bingo et par d'autres choses que vous avez même dans l'église. Et vous essayez toutes sortes de choses pour recevoir de l'argent, pour que vous puissiez payer votre pasteur. Comment est-ce que vous pouvez intencher cette soif sainte avec autre chose? Autrefois, dans la chambre haute, la faim et la soif a été intenchée par le Saint-Esprit qui est venu. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de répondre à cette faim que Dieu a mis en vous par autre chose. Vous voulez comme ça introduire l'instruction. Vous voulez un pasteur intellectuel, pas un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui est instruit. Et qui peut vous montrer et vous prouver où est-ce qu'il a reçu ses diplômes, etc. Et une certaine personnalité, c'est ce que vous voulez. D'où est venu Jean-Baptiste? D'où est venu Jésus? Qui est allé à l'école? Qui était avec Qu'est-ce qui s'est avec lui? Jean a apparu. Il sortait du désert. Son père était un sacrificateur, le père de Jean-Baptiste. Et il a, son père avait une instruction. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec Jean? Jean, on ne sait même pas s'il était même allé à l'école. À 9 ans, c'est ainsi que l'histoire le raconte, il est allé dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi les traces de son père? Vous voyez? Vous savez ce qui s'est passé autrefois. Aujourd'hui, il est dit, oh, le frère tel et tel. Oh, il faut l'écouter. Non, Jean a apparu. Il lui a été dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et rester, c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Bien sûr, vous voyez, il fallait qu'il ait la puissance de Dieu, pas l'instruction. Bien sûr, si vous êtes instruit et que vous recevez aussi la puissance de Dieu, c'est bien. Mais si vous avez seulement que de l'instruction, du savoir, sans la puissance de Dieu, alors cela ne suffit pas. Vous voyez, 40 ans, il a été instruit. Et il savait que il devait délivrer les enfants d'Israël. Et il a frappé l'Égyptien et pensait, maintenant, mes frères reconnaîtront que Dieu m'a envoyé. Et il a d'une manière misérable failli dans son entreprise. Ses frères l'ont pas reconnu. Mais ensuite, les 5 minutes qu'il a passées devant ce buisson ardent, lui ont plus donné que ses 40 ans d'instruction auparavant en Égypte. Vous voyez, Dieu, vous pouvez que le comprendre dans l'humilité et le suivre dans la simplicité. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit, oh, j'ai une bonne instruction, je suis instruit, je vais aller constater, voir ce que c'est comme feu. Je vais prendre les feuilles, je vais les envoyer dans un laboratoire et je vais les laisser examiner. Non! Moïse a ôté ses sandales. Il s'est mis à genoux dans la crainte et il a parlé à celui qui était dans le feu, dans le buisson ardent. Et Moïse a reçu la réponse. Vous voyez, parlez avec lui. Il vous répondra. C'est ainsi que cela doit être. Car celui qui frappe, il lui sera ouvert. Celui qui demande, il lui sera accordé. Et celui qui cherche, il trouvera. C'est ainsi que c'est si simple. Vous voyez? Si vous voulez vraiment trouver Dieu, vous allez devoir vous comporter de manière étrange. Pour les autres, bien sûr. Vous savez, Moïse s'est enfui alors qu'il était allé de lui-même la première fois. Et qu'il avait frappé l'Égyptien, c'est ainsi qu'il s'est marié, et il a attendu jusqu'à que le Seigneur ait trouvé le temps adéquat pour l'envoyer. Et c'est ainsi que Séphora est allée avec lui, elle a laissé préparer la naisse, et déjà cela a commencé, et subitement, on aurait pu poser la question, mais Moïse, où vas-tu? Il a dit, mais je vais en Égypte pour exécuter tout l'ordre du Seigneur. L'invasion d'un homme unique. Comment est-ce que tu pourras savoir que cela te réussira? Dieu l'a dit. Cela me suffit. Dieu l'a dit ainsi. Mais tu as 80 ans. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé exécuter cet ordre alors que tu avais 40 ans? Autrefois, ça aurait été mieux, tu étais jeune, tu étais plus jeune. Mais maintenant, tu as 80. Non, maintenant, c'est le temps de Dieu. Ça n'a pas d'importance. Et même si tu ressemblais à un vétéran dans une vieille église, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que Dieu t'ait appelé réellement et que en son nom, tu peux aller. C'est-à-dire dans sa volonté. Et qu'il peut être avec toi. Vous voyez, cette apparition de la présence de Dieu a signifié à Moïse plus, car c'était la manifestation de la puissance de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ainsi qu'il est allé exécuter l'ordre. Donc, il ne s'agit pas de votre intelligence, mais de la manière avec laquelle vous pouvez devenir simple pour que Dieu puisse se révéler à vous et faire quelque chose avec vous. Pas l'intelligence et la sagesse. Cela même peut venir du diable. Qui sont les enfants de Caïn? Ce sont les enfants du diable. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Tous étaient des gens instruits, des scientifiques, etc. Et qui étaient les enfants de Zeth? Des gens simples, des fermiers, des bergers, etc. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois avec les sages et intelligents du temps du déluge? Tous sont allés dans la perdition, dans le déluge. Mais Noé, un homme humble, vous voyez, les enfants de Caïn ont été détruits. Aujourd'hui, les sages, les intelligents, c'est ainsi que Satan, dans les années d'Éden, a séduit Ève. Regardez Moab, cette grande organisation. Bien sûr qu'ils adoraient le même Dieu. Ils avaient aussi l'ancien Bilam et il a construit 7 autels. Il a apporté 7 béliers, le même nombre d'autels que Israël. Tel qu'Israël avait fait, c'était une imitation. Et ensuite, il a malgré tout essayé de maudire ses frères. Eux, ils voulaient passer par le pays. Mais ils n'ont pas aimé ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dieu, malgré tout, les a conduits. Malgré que les autres ne voulaient pas accepter le réveil de ces gens qui jouaient un rôle de saint. Dieu, lui, il avait fait un contrat avec eux. Et dans la simplicité, il s'est caché parmi le peuple d'Israël, comme il a toujours fait. Comme il a toujours fait. Moïse, un serviteur de Dieu consacré à Dieu. Mais Moïse avait connu Dieu plus après qu'il ait rencontré dans le bouchon ardent que dans toutes ces années auparavant. Vous voyez, qu'est-ce que c'était avec Akab et dans les autres temps, comme nous avons parlé de ça aujourd'hui. Akab avait aussi apparu. Il n'était pas directement comme ça une personne mauvaise. Il était seulement un Israélite rétrograde. Et sa femme l'avait le dirigeait. Donc il était la tête, mais elle était le cou. Le cou qui faisait tourner la tête. Vous voyez, je ne dis pas que notre président est comme ça et comme ça. Mais le vieux système derrière lui, faites attention, écrivez cela. Et si vous pensez que je me tiens ici et que je ne sais pas ce que je dis, je deviens âgé un jour, vous allez savoir, si je ne suis plus là, que je vous ai dit la vérité. Si Jésus ne revient pas bientôt, moi je vais repartir dans la gloire. Mais vous allez entendre les cassettes. Et je vous le dis, il n'y a plus d'espérance pour ce pays. Je suis une vieille personne. Je me tiens ici, je vous dis, le temps va vers sa fin. Vous êtes à la fin, les nations sont à la fin. Il n'y a seulement qu'une seule chose. Laissez-vous sauver de cette génération pervertie. Comme Pierre l'a dit dans sa première prédication. Vous voyez Akab. Ensuite, Jézabel, elle a apparu. Et toutes les femmes l'imitaient, faisaient comme elle. Faisaient comme elle. Vous voyez? Et tous les prédicateurs, tous les sacrificateurs sont devenus mondains. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé un homme puissant. Nous ne savons pas qui était son père, qui était sa mère. Il est sorti de rien du tout. Qui était son père? Qui était sa mère? Il n'a rien dit de tout cela. Un homme du désert. On ne sait même pas s'il était là à l'école.
il a apparu de manière étrange. De la même manière, d'une manière étrange, il est reparti. Un homme simple. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que les théologiens du temps d'Élie ont pensé de lui. Oh, ça, c'est un vieux fou. Laissez-le tranquille, il est fou. Il haïssait tous Élie. Il avait la parole du Seigneur. Et le salut pour toute la nation. Mais ils n'ont pas prêté l'oreille à son message. Élie servait Dieu de manière bien. D'une manière que le même esprit est venu sur Élisée. Et aussi plus tard sur Jean-Baptiste. Et de nouveau dans les derniers jours. De la même manière simple, il se tenait là et il le disait en face la vérité. Après, le Seigneur a utilisé Élisée. Ensuite, il a utilisé Jean-Baptiste. Et maintenant, il faut que le cœur des enfants retourne au Père. Retourne au Père. Le même esprit. Pas la sagesse, pas l'intelligence. Élie n'était pas un homme instruit, un docteur, un enseignant. Il n'était pas une personnalité particulière. Nous ne savons même pas d'où il vient. Mais il croyait Dieu simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont ceux dans lesquels Dieu peut se cacher, rester caché. Pouvez-vous vous imaginer un homme comme Moïse, un homme d'ordinaire, qu'il ait fait ce qu'il a fait. Vous voyez? Et Élie, un homme chauve, avec une longue barbe, il a apparu. Et là-bas, les sacrificateurs se tenaient. Et tous ses collègues dans le séminaire, ils auraient pu, n'est-ce pas, tous ces gens dans les séminaires, ils auraient pu être plus adéquats pour cette œuvre. Mais Dieu est passé à côté de tous ces hommes-là sans les appeler. Vous voyez, il ne les a pas pris, il est passé devant tous. Et il est venu et il s'est révélé dans la simplicité. Et il agit aussi dans la simplicité. Pour que tous puissent se comprendre. C'est peut-être raison qu'il est si grand. Parce qu'il peut se rendre si simple. Oh, le monde était plein de grands docteurs. Mais il est passé à côté de tous ces gens. Et il s'est pris les plus simples. Pensez à cela. Et cette sorte-là vivait aussi dans cet âge. Et l'esprit dans lequel il a apparu était trop simple pour leurs instructions, pour leurs séminaires. Ils se sont déjà fabriqué un système. Ils se sont déjà imaginé comment est-ce que les choses seront. Et ils étaient instruits. Et ils ne l'ont pas vu. Ils sont passés sans en prendre part. Ils l'ont méprisé et blasphémé. Et il est dit, n'est-ce pas, que les insensés marchent avec des sabots là où les anges n'osent même pas mettre à point des pieds. Vous voyez? Et ils ont présenté l'œuvre de Dieu comme venant du diable. Et Jésus a dit que c'est du blasphème. Je vous pardonne, celui qui a blasphémé contre le Fils de l'homme, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Nous allons avec des sabots, ils vont avec des sabots et ils marchent là où les anges n'osent même pas mettre à point les pieds. Nous en Amérique, nous sommes devenus trop instruits. Nous nous sommes éloignés de Dieu par l'instruction. Et nous voyons même les prédicateurs sont comme dans une couveuse. Moi, les poussins m'ont toujours fait mal au cœur. Qui ont été couvés par des appareils. Ils ne savent même pas qui est leur mère. Et ils n'ont pas de maison réelle et de demeure. C'est seulement des appareils, des couveuses. Vous avez la forme de la piété. Et vous en reniez la force de la puissance de la parole de Dieu. Vous ne connaissez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Et vous ne connaissez pas l'expérience qu'avait eue la première église, l'effusion de cet esprit. Vous dites que c'était seulement le jour de la Pentecôte. Non, Jésus-Christ dit, allez dans le monde entier. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. jusqu'à la fin du monde. Oui, vous voyez, moi je vous montre où est-ce qu'il a accordé à l'église la puissance d'en haut. Et vous montrez-moi quand est-ce qu'il a ôté cette puissance d'en haut à l'église. Et montrez-moi où est-ce que cette promesse n'est plus valable. Vous pouvez être intelligent et continuer comme ça à vous instruire loin de Dieu. Vous pouvez avoir tout ce grand vocabulaire et cette grande terminologie. Mais à quoi vous sert toutes ces positions que vous avez? Si à la fin de votre... Quand vous serez à la fin de votre vie, qu'est-ce que cela vous servira? À quoi est-ce que cela vous servira? La science est bien. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Si vous pouvez arriver en haut et recevoir la couronne, et comment est-ce que cela continue? Vous devez continuer dans la foi. La science, c'est bien, mais comment cela continue? Dans la foi. C'est-à-dire, il faut croire la parole, marchant en accord avec les Écritures. Si cela n'est pas en accord avec les Écritures, alors ne le croyez pas. Ne croyez pas à vos sentiments et vos sensations et à ce que vous ressentez. Si cela est contre les Écritures, rejetez-le. Quelqu'un me disait simplement, ça n'a pas d'importance. Combien vous, du pentecôtisme, vous pouvez amener comme preuve que des gens ont été guéris? Moi, je ne le croirai pas. Je ne le croirai pas. Je lui ai dit, mais bien sûr, ce n'est pas pour les incroyants. C'est seulement pour les croyants. Ce n'est pas pour les incroyants. Ce n'est pas envoyé pour les incroyants. C'est envoyé pour les croyants. Vous voyez, l'incrédulité du temps de Jésus ne l'a pas empêché d'agir et de travailler. Il a continué à faire des miracles. Bien sûr, nous vivons dans un monde instruit. Ils peuvent diviser... Ils peuvent construire des bombes atomiques et etc. Et aller dans le monde entier. Mais il y a toujours des hommes encore aujourd'hui qui croient au véritable baptême du Saint-Esprit comme dans l'église primitive, tel que c'était toujours. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils croient. Ils n'ont pas besoin d'expliquer, ils ont seulement besoin de le recevoir. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. J'aime cette parole, ça veut dire ainsi soit-il. Dieu se manifeste de manière simple et se révèle ensuite. Mais les sages et les intelligents pensent savoir tout. Et malgré tout, ils pensent même que le soleil ne pourrait pas briller. Si ce n'est qu'ils pourraient expliquer cela, c'est ce phénomène. Dieu, lui, il a ordonné toutes choses. Le soleil brille quand même, même si vous ne pouvez pas expliquer ça. Alors, regardez dans le jardin d'Éden. Le Messie déjà avait été promis dans le jardin d'Éden qu'il viendra et qu'il brisera la tête du serpent. Et que il aura le talon mordu. Tous les prophètes ont prophétisé sur sa venue. Et ils ont dit comment est-ce qu'il sera. Et où est-ce qu'il naîtra. Quelle sorte d'œuvre il fera. Quel sera le signe du Messie, etc. Les Écritures ont annoncé tout à l'avance dans l'ordre et tout a été prononcé à l'avance. Et malgré tout, ils sont passés sans prendre part à sa venue à des milliers de kilomètres. Il n'est pas venu contraire aux Écritures. Il est venu selon les Écritures, mais ils ne l'ont pas reçu. Parce que ils pensaient qu'il n'est pas venu tel que eux, ils pensaient qu'il allait venir. C'est comme ça que c'était avec Noé, du temps de Moïse. Ça a toujours été ainsi. Ils se sont toujours donné une imagination des choses. Et ils les ont manquées. Parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître la simplicité de ce que Dieu faisait. Dieu se cache ainsi dans l'accomplissement de sa parole. Cela dépasse l'intelligence et la sagesse humaine. Vous voyez, si on voit deux choses contraires qui vont vers l'autre, ils passent sans se rencontrer. Subitement, ça s'est passé. Et on ne comprend même pas ce qui s'est passé. Et déjà, ça s'est passé. Amen. C'est comme ça que je l'aime. Dieu a fait les choses ainsi pour que nous puissions le reconnaître. Pas de l'instruction, mais simple, pour que aussi des personnes comme moi puissent aussi le comprendre ou bien alors le croire. Vous voyez? Car le Messie avait été annoncé à l'avance. Même le lieu de sa naissance. Tout ce qu'il allait faire, etc. Tout tel que ça devait être. Mais quand il est venu, les prédicateurs, les gens d'autrefois, les religieux, étaient ainsi. Ils étaient dans leur doctrine et leur tradition. Et ils pensaient, par exemple, les pharisiens pour eux, que quand il viendra, il sera pharisien. Les sadduciens disaient, non, pas, nous ne voulons rien avoir à faire avec ces gens qui ont leur propre justice et qui sont hypocrites. Non, quand il viendra, il sera avec nous, les sadduciens. Vous voyez, mais Dieu n'avait pas besoin de prendre parti pour qui que ce soit, et il n'avait pas besoin de leur sagesse et leur intelligence. Dieu a envoyé son fils, tel qu'il avait dit, vous voyez, et le Messie là-bas dans une table où il y a de la pourriture, là où il y a des déchets, là où il y a les ordures et les selles des vaches. Est-ce que vous pensez que les pharisiens et ces gens avec leur propre justice et des hypocrites auraient pu accepter et reconnaître qu'il est le Messie? Là-bas, naître, venir par une étable comme ça, dans un tel lieu, oui, le petit Jéhovah, pleurant en tant qu'enfant, bébé, pensez-vous qu'ils auraient pu accepter ça? Que le grand puissant Jéhovah, qui là-bas était descendu sur la montagne de Sinaï en feu, qui avait divisé la mer, que là-bas dans une table, il prendrait la forme d'un homme? Non, ça ils n'auraient pas pu le croire, jamais, non. Ils avaient leur propre pensée, ils pensaient que quand Dieu enverra le Messie, alors il sera accompagné de 10 millions d'anges et ils vont aller devant lui et ils vont d'abord annoncer qu'il vient et ensuite il descendra directement du ciel et il viendra et il ira au grand sacrificateur et il le confirmera dans son ministère et il confirmera le sacrificateur que nous avons choisi dans son ministère et bien sûr il viendra et il dira me voici. Ainsi Caïphe, tel et tel, je suis le Messie. Est-ce que tu ne m'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas vu que le ciel s'est ouvert et que je suis descendu? Non, c'est comme ça qu'ils l'ont pensé. Mais il vint là-bas dans une étable. Et il est né d'une femme. Et il a même été dit que ils ont dit qu'il était un enfant illégitime. Emmailloté dans une paille. Et on a dit que emmailloté dans une paille comme ça, et ils l'ont pris avec lui sur l'ânesse. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'est tenu là, allongé là-bas dans une crèche, dans l'étable, là où il y avait de la paille. Là, dans une étable où il y avait de la paille, c'est ainsi que le Créateur du ciel et de la terre s'est créé un corps et est devenu le plus petit. Le plus grand est devenu le plus petit. Ça, c'est notre Dieu. Il s'est abaissé. Un homme ne peut jamais le faire. Quand un homme dans une église commence à avoir une position, alors déjà il est fier d'une certaine manière et vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Mais Dieu lui peut se rendre si petit. Il est si grand. Nous ne pouvons pas saisir sa grandeur. Il est si grand que nous ne pouvons jamais imaginez sa grandeur. Mais il peut s'abaisser au-dessus de tout. Et le Seigneur a dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils peuvent construire des bombes atomiques, diviser des molécules, mais ils ne peuvent même pas expliquer la vie dans le gazon et dans une tige. Vous voyez, ils passent à côté du gazon comme ça, sans considérer. Nous passons à côté de cette parole, qui est la parole de Dieu. Et nous acceptons des doctrines et des dogmes et des interprétations et des traditions. Ne vendez pas votre droit de naissance de cette manière. Pour un plat de lentilles, pour de la popularité, pour une position dans une église, pour des interprétations où on vous permet de faire ceci ou de faire cela. Ne vendez pas votre droit de naissance pour maintenant pouvoir vous maquiller, porter des pantalons, des habits serrés et aller à des parties, vivre comme les choses du monde. Je ne veux pas vous reprendre, mais c'est le respect que j'ai devant Dieu et sa parole. Je dois vous le dire en face. Éloignez-vous de l'esprit de ce monde et des choses de ce monde et de la manière de vivre qui est comme le monde. Revenez à la Bible, revenez à la parole, à la vérité de l'évangile. Toutes ces choses-là vous ont éloigné de Dieu sans que vous le sachiez. Revenez au chemin simple de Dieu. Tombez sur vos genoux. Et revenez à la simplicité qui est en Christ. C'est-à-dire que vous recevrez ce qu'il veut vous donner. Il veut vous donner plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Non. Il est écrit, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit s'est infusé sur tous ceux qui étaient présents. Chez Corneille. Mais nous ne voulons pas assez nous humilier, nous rendre petits. Il n'y a pas longtemps, j'avais prêché et il y a une femme qui a commencé à se réjouir. Elle a commencé à louer le Seigneur. Et il y a quelqu'un que je connais dans la ville est venu et avait écouté cela et a dit, mais je me suis réjoui de la prédication. Mais quand les gens ont commencé à crier, à dire amen, à louer, cela... a laissé comme ça un sentiment froid traverser mon dos. Je pensais, j'ai dit, mais si ce n'était pas comme ça avec ceux qui écoutent, qu'ils sont comme ça enthousiasmés de la prédication, alors moi ce serait sur mon dos à moi, dit frère Branham, que un sentiment froid coulerait. Je lui ai dit, mais regarde, tu joues, n'est-ce pas, au basket. Est-ce que tu veux que quand tu joues, les spectateurs sont là comme ça, tranquilles, ou bien dorment, ou bien ne disent rien, et qu'il n'y ait pas de résonance quand, par exemple, il y a un but qui est marqué? Il dit, mais non, ça c'est quelque chose d'autre, mais tu es un fanatique. J'ai dit, mais peut-être que si je suis un fanatique, je suis donc le fanatique le plus heureux qui existe. Et j'ai continué à parler avec lui. Je lui ai dit, mais écoute, si un joueur de basket a un match et que les choses ont lieu, le match a lieu, et que il n'y avait pas des cris, etc., et de l'enthousiasme, qu'est-ce que tu aurais dit? Si moi, par exemple, je regardais, moi, prédicateur, je vous regarde en train de jouer au basket, et je ne prends pas part au match, et je suis pas enthousiasmé. Qu'est-ce que toi tu diras en me regardant? Qu'est-ce que tu diras en me regardant? Qu'est-ce que tu penseras en me regardant? Est-ce que je suis donc intéressé à ce que tu fais et à ce qui se passe? Je lui ai dit, si toi tu veux que je sois intéressé à ton jeu de basket et que je sois enthousiasmé, à plus forte raison, tu devrais être intéressé et enthousiasmé de la parole de Dieu qui est prêchée quand Dieu se révèle. Donc il s'agit, car votre vie se nourrit de quelque chose. Ne soyez pas comme un hypocrite, comme un corbeau qui se nourrit des choses mortes de ce monde. Nourrissez-vous des choses vivantes de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sorti de la bouche de Dieu. Alors que Jésus vint, ils avaient tout fabriqué. Ils étaient dans un système fabriqué. Ils ne comprenaient pas que comment est-ce qu'une grande personne comme lui peut naître dans une étable. Si simple. Mais c'est comme ça aujourd'hui. les religions chrétiennes pensent à une grande église, des milliers, des bâtiments qui coûtent des millions, un orgue qui coûte des millions, etc. Avez-vous compris comment est-ce que les choses étaient simples? Par exemple, vous qui acceptez Saint-Patrick, il a protesté contre l'église romaine catholique et il a apparu contre elle. Là-bas, il avait son bâtiment aussi construit sur un rocher. Il avait enseigné le baptême du Saint-Esprit de son temps. Saint Francis et tous ses réformateurs de l'époque. Comment est-ce qu'ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit? Ensuite, Saint-Martin, Héronios et tous les autres. Ils n'avaient pas tous ces sièges agréables que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et nous pensons que les choses vont bien pour nous. Nous sommes à l'aise. Ils n'étaient pas à l'aise comme nous aujourd'hui. Parce que les gens pensent que parce qu'ils sont à l'aise, ils ont une vie agréable et à l'aise, ça prouve que Dieu les a bénis et que Dieu est avec eux. Non, ce n'est pas obligé. Ça ne doit pas être comme ça. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. L'église pentecôtiste aujourd'hui, elle pense. Elle agit aujourd'hui différemment que les premiers chrétiens. J'avais parlé quelque part un jour et malgré que j'avais prêché très sérieux là-bas, ils m'ont toujours de nouveau invité. Mais c'est ainsi que, en les aimant, je prêche dur et c'est parce que je les respecte. Et un jour, j'avais parlé devant les hommes d'affaires chrétiens. Et ils avaient parlé, ils avaient une réunion, ils étaient en train de parler de leur Cadillac et de leur voiture qu'ils ont, et de leur maison, de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont comme bien, etc. Ils étaient en train d'énumérer tout. Et j'étais en train de prêcher. Et j'ai dit, mais l'église au commencement, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils l'ont donné aux pauvres. Et vous êtes en train d'énumérer ce que vous avez. Au lieu de d'être en train de parler de tout ce que vous avez en double que vous devez partager et donner aux autres. Et il y a un prédicateur connu à Chicago qui s'est levé et qui a dit, mais je voudrais maintenant te défier. Il disait, mais à l'époque, l'église au commencement, c'est là qu'elle a fait son erreur. Je lui ai dit, mais comment le Saint-Esprit a fait une erreur? Il disait alors, quand la persécution a eu lieu, il me disait, mais écoute, quand la persécution a eu lieu, ils n'ont plus eu de maison où ils pouvaient rester. Je lui ai dit, mais c'est justement ce que Dieu voulait, pour qu'ils aient plus de maison, mais qu'ils puissent être dispersés partout, et que la parole de Dieu soit propagée partout, et que l'évangile puisse aller partout. Mais aujourd'hui, nous voulons étouffer tout. Nous ne voulons plus croire quand le pasteur dit quelque chose qui ne nous arrange pas. Alors nous partons, nous nous fâchons. Ou bien alors, si la parole de Dieu dit quelque chose qui n'arrange pas une certaine religion, alors on veut changer de religion. Qui n'arrange pas les presbytériens ou bien les pentecôtistes, alors on veut changer de religion, on veut changer ou bien partir. Est-ce que c'est ça être chrétien? Ou bien alors un prédicateur est voté? Et quand cela a lieu, vous voulez avoir le plus instruit pour que vos voisins puissent dire, oh, notre pasteur, il a un titre de docteur. Ne vous remplissez pas pour vous éloigner de Dieu. Dieu, lui, il se révèle dans la simplicité. Laissez-vous videz-vous pour que Dieu, lui, puisse vous remplir. C'était trop pour ces gens instruits et intelligents de l'époque. Dieu, lui, se cache dans la simplicité, comme dans cette petite enfant. Mais et quand il a été crucifié, oh, ça c'était alors passé. Maintenant, il y a presque 2000 années d'ici. Les grands sacrificateurs, alors qu'ils avaient vu qu'il faisait ces miracles, ils savaient que Et il savait qu'il condamnait leur organisation. Alors, il les a désignés même venant du diable. Dans Jean 8. Et il a dit, Dieu est capable de ces pierres-là de faire des enfants d'Abraham. Ne pensez pas que parce que vous êtes né juif, que vous êtes déjà la descendance. Et il les a appelés même race de vipères. Et il leur a dit, si tu es le fils de Dieu, ils ont dit au Seigneur, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Tu as aidé les autres. Et toi, tu ne peux pas t'aider toi-même. Vous voyez, il a fait des miracles. Et ça, il ne pouvait pas le renier. Mais il voyait lui, le Dieu de la création, se tenir là. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et je voudrais que vous, qui suivez le train moderne de ce monde, dans votre façon de vous habiller, de vivre et de vous comporter, je voudrais que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous servez vraiment Dieu? Qu'est-ce que c'est que le train moderne de ce monde? Aujourd'hui, on dit, oh, c'était un grand docteur. Il était un prophète. Oui, il était prophète, il était docteur. Il était plus qu'un docteur, il était plus qu'un prophète. Parlant du Seigneur. Il était Dieu. Il n'était pas moins que Dieu. Vous voyez, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Jésus-Christ disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Il était Dieu, manifesté dans la chair. C'était une femme de la science religieuse. Je m'excuse, je n'aurais pas dû le dire maintenant. Mais elle disait, Mr. Branham, j'ai écouté ta prédication, mais tu as trop glorifié Jésus dans ta prédication. Je lui ai dit, mais c'est la seule chose que tu as à me reprocher. Et alors je lui ai dit, mais je souhaiterais même avoir des millions de langues pour le louer. Il est tout pour moi. Elle a dit, mais tu fais de lui Dieu. Je lui ai dit, mais il était Dieu. Alors s'il n'était pas Dieu, alors ça veut dire qu'il était le plus grand séducteur que le monde avait. Il n'était rien d'autre que Dieu. Même son sang était le sang divin, était le sang de Dieu qui a coulé. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Il n'était ni païen ou ni juif. Car les cellules de la vie viennent de l'homme. Un chien ou bien un canard peut pondre un œuf. Mais si elle n'a pas été avec le canard, elle peut couver comme elle veut. Jamais en sortira un canard. Donc, Jéhovah, c'est lui qui a créé les cellules en Marie. Et vous, les catholiques, si vous dites qu'elle était la mère de Dieu, comment est-ce qu'elle peut avoir été la mère de Dieu si Dieu, lui, il est d'éternité en éternité? Elle était seulement la couveuse, l'endroit où cela a eu lieu, que Dieu a utilisé pour apporter son fils ici sur cette terre, pour se créer un corps. Elle n'avait rien à voir à faire avec l'engendrement. Parce que si elle avait eu quelque chose à faire avec ça, ça voudrait dire qu'elle aurait eu qu'elle aurait ressenti quelque chose. Non, c'était une action surnaturelle, c'était une création surnaturelle de Dieu. Et elle me dit, je peux te prouver avec ta propre Bible qu'il était rien d'autre qu'un homme. Je lui ai dit, mais comment? Elle dit, oui, dans Jean 11. Au sépulcre de Nazareth, de Lazare, il est écrit qu'il a pleuré. Cela, ça montre, n'est-ce pas, qu'il était homme, qu'il était mortel. Sinon, il n'aurait pas pu pleurer. Je lui ai dit, mais écoute, femme, ton argument n'a rien à dire. Ça n'a aucune valeur, ce que tu dis. Je lui ai dit, mais certainement qu'il a pleuré en tant qu'homme. Mais quand il a redressé ses épaules, et qu'il a dit, Lazare sort. Ça, c'était plus qu'un homme qui a parlé ici. Vous voyez, c'était Dieu qui a appelé un homme à sortir des morts. Vous voyez, c'est vrai. Alors, qu'il vint des montagnes le soir et qu'il avait faim, il a regardé cet arbre. Et il n'avait pas trouvé de fruits en lui. Donc, il avait eu faim. C'est une réaction humaine. Mais maudire l'arbre, c'est vrai. C'était un homme quand il a eu faim. Mais de maudire l'arbre, ça c'était plus qu'un homme. Et quand plus tard, il a pris les quelques pains et les quelques poissons et qu'il a nourri 5000 personnes, ça c'était plus qu'un homme. Vous voyez? Et alors qu'il était là-bas sur la barque, ou bien dans la barque, et qu'il était fatigué et qu'il a dormi, c'était un homme. Ça c'était humain. Mais quand il s'est levé et qu'il a ordonné au vent et à la tempête de se calmer, c'était plus qu'un homme. Il était Dieu en tant qu'homme. Vous voyez? Alors, elle a dit, alors, ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Si tu es le Messie, descends de la croix et sauve-toi et sauve-nous. Montre-nous que tu l'es. Vous voyez? Cela aurait été pour eux de l'autorité. Non. Il était justement en train de les sauver en mourant sur la croix. Dieu s'est révélé dans la simplicité. Et il a dû souffrir la mort dans un corps de chair. Lui, le grand, le plus haut, le très haut, il est devenu le plus petit. Il est devenu malédiction. Il mourut pour nous apporter la vie. Dieu s'est caché dans la mort pour se révéler dans la résurrection par la vie. Lui, le grand, le plus haut, il est devenu le plus petit. Il a porté la malédiction sur lui. Et il mourut. Il s'est caché devant les intelligents et les sages. Et le diable vint. On lui a mis un voile sur la tête. Et on l'a frappé. Et on lui a dit, dis-nous, qui est celui qui t'a frappé? Alors nous allons croire que tu es le Messie. On l'a craché sur lui. Il n'a pas ouvert sa bouche. Oh, le diable pensait, si ça c'était Dieu, non, ce n'aurait pas été possible que cela soit fait avec lui. Non. C'est ce qu'il pensait. Vous voyez? Là-bas, si c'était possible, ils auraient pu prendre même une caméra. Ils auraient bien voulu faire des enregistrements, filmer cela. Mais là-bas, cette vieille croix rude, tenue là, il a porté cette croix. Et c'est ainsi qu'il a versé. Je veux voir déjà son corps par les coups, déjà saignant. Le sang a transpercé son vêtement. Le Dieu de la création a porté la croix. Déjà, il était saignant de coups, de fouet. Le bois que lui-même il a créé, venant de l'arbre, a été porté par son créateur. Il est allé portant les épines, la couronne d'épines. Tout cela a eu lieu à cause de nous. Son sang a coulé. Qu'est-ce que c'était à traverser tout? Sa force humaine l'a quitté. Et malgré tout, c'était Dieu. Dieu, dans la simplicité, caché. Dieu a porté la croix. Il est allé, il est descendu de cette montagne, ce chemin. Le sang, son vêtement était imprégné de sang. Et il est tombé sous le poids de la croix, du bois. Simon de Cyrène a continué à la porter pour lui. Oh, le diable pensait, ça ne peut pas être Dieu. J'ai vaincu tous les hommes et maintenant lui aussi je l'ai vaincu. Il a envoyé la mort comme une abeille qui a un aiguillon. Vous savez que l'abeille a aussi un aiguillon et la mort a un aiguillon. Et vous savez que si une abeille vous pique profondément, alors son aiguillon la quitte. Elle perd son aiguillon.
se détache. Et c'est ainsi que si c'était seulement un homme ordinaire, un prophète, alors cela n'aurait pas marché. Car tous les prophètes devaient mourir. Mais ici, c'était Dieu qui s'est manifesté dans la chair. L'adversaire a piqué dans la chair. Et c'est ainsi que le Seigneur a ôté l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, a retiré l'aiguillon de la mort. Et alors plus tard, le grand apôtre Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Gloire à Dieu qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Dieu s'est abaissé. Oh, l'homme avait péché. Le grand abîme transgressé, très séparé de Dieu. Plus de possibilité de revenir, passer l'abîme. Et c'est ainsi que Dieu dans la chair s'est révélé, prenant la place de l'homme, donnant, apportant le sacrifice pour pouvoir revenir par l'abîme, revenir à Dieu. Vous voyez, cela a eu lieu, c'est passé. Cela s'est passé, cela s'est accompli. Pas par le sang de taureau ou bien de bouc, etc. Cela a fait que couvrir le péché, mais pas le pardonner, pas l'ôter, l'effacer. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu, qui a versé son sang et qui pouvait pardonner le péché, pas seulement le couvrir. Peut-être qu'il y a des scientifiques ici, il y a des gens de la science ici, je vais essayer de décrire quelque chose et j'espère que vous le comprenez. Si par exemple, on a de l'encre et observez une goutte d'encre, qu'est-ce qu'était l'encre avant de devenir encre? Ce sont des produits chimiques qui sont reliés. Bon, vous dites, mais en grande partie, il y a de l'eau et aussi ajouter à cette eau un peu de produits chimiques pour donner de la couleur. Mais d'où vient cette couleur? Il n'y a qu'une seule couleur originale, primitif, c'est le blanc. D'où viennent alors toutes les autres couleurs? Qu'est-ce que sont leurs composants? Vous voyez? Vous dites, mais sûrement c'est un acide et ensuite ça devient ceci et ça devient cela. Et ensuite la lumière frappe là-dessus et des molécules apparaissent et ensuite cela est multiplié par 2, par 5, par 8. Des atomes sont calculés. Vous voyez? Si on dit par exemple atome par multiplié par 5 et multiplié par 4, ça ne va pas. Il faut que ce soit exactement tel que la composition l'exige. Une certaine partie de mesure de ceci et de cela. Vous voyez, c'est ainsi que toute la création vient d'un seul créateur. Pourquoi l'encre? L'encre pouvait écrire ce qui est écrit dans Jean 3, verset 16. Votre pardon. De la même manière, votre condamnation. Vous voyez? Et c'est par toutes ces années-là que tout cela s'est déroulé, tout ce qui s'est passé. Beaucoup de choses ont été inventées et ont été produites. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un décolorant. Si par exemple une goutte d'encre tombait dans cet acide chimique, alors vous ne trouverez plus l'encre. Elle se décompose, dissout, se délue au même moment et elle est revenue dans sa composition originale. C'est la même chose aussi avec le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que le sang le fait avec le péché. Si le péché est confessé et que le sang de Jésus-Christ est employé, alors ce n'est pas seulement une rémission et le pardon des péchés, mais Dieu ne pense plus à vos péchés et les a oubliés. Où est l'Église aujourd'hui? Si nous sommes nés en tant que pour être fils et filles de Dieu, est-ce que Jésus-Christ même l'a dit? Tel que votre loi le dit, vous êtes des dieux, des gens à qui... Ceux à qui la parole si ceux à qui la parole de Dieu était venue ont été appelés Dieu, qu'est-ce que c'est avec nous alors? Tel que ça c'était pour les prophètes. Et la parole est venue aux prophètes. Et vous que vous appelez les prophètes Dieu, comment des dieux, comment est-ce que vous pouvez me condamner si je dis que je suis le Fils de Dieu? Donc, si le sang des boucs et des taureaux pouvait donner la force à Moïse sur le fondement de l'ordre et qu'il a appelé à l'existence des êtres vivants, si cela s'est passé autrefois, que Dieu pouvait révéler ses pensées et parler à Moïse et que Moïse a reçu les pensées de Dieu et a fait que les prononcer et que ce qu'il disait arrivait, appelé à l'existence, même s'il n'y avait pas d'oiseaux dans tout le pays d'Égypte, subitement, il commençait à voler autour de lui. Et des milliers d'oiseaux sur un mètre carré. Qu'est-ce que c'était? C'était une parole créatrice de Dieu prononcée par une lèvre humaine. Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre, mais il a utilisé l'homme pour le faire. Pas le soleil, pas le vent, rien, mais un homme a été choisi par Dieu pour prêcher son évangile. Qu'est-ce qui se passe avec l'église aujourd'hui? Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est faux avec l'église. Nous devons revenir à la parole de Dieu originale, à la chose véritable. Si au modèle de la Bible, si Dieu pouvait faire de grandes choses sous le sang des boucs et des béliers et des taureaux, où seulement le péché était que couvert, mais pas remis, pas pardonné, seulement couvert. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire alors par le sang de son Fils, si nous croyons réellement à l'œuvre de Golgotha, où le péché est remis, est pardonné, est effacé? Il a créé un sang qui peut ôter le péché, qui peut le pardonner, qui peut l'effacer. Et comme dans Marc 11, verset 23, il est dit que si vous dites à cette montagne et que vous croyez que cela se passe, que vous demandez que cela arrive et que vous croyez que cela est arrivé, vous le recevez. Où est l'église pentecôtiste aujourd'hui? Où sont les croyants? Amen. Vous ne reconnaissez pas qu'un péché reconnu et confessé n'est pas seulement remis et pardonné, mais vous avez été ramené vous-même dans la directe présence de Dieu, votre Créateur, et vous êtes comme si la chute de l'homme n'avait jamais eu lieu, et vous êtes devenu fils et fille de Dieu. Oh, comme il a dit, celui qui croit en moi fera même les œuvres que j'ai faites. Amen. Amen. C'est ici que vous avez votre position de fils de Dieu. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, déplace-toi dans la mer, et que vous croyez dans votre cœur que cela est arrivé, cela doit arriver. Gloire à Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui, dans la simplicité, se révèle. Vous voyez, Dieu peut prendre un pécheur humble, petit, le purifier par son sang et ôter, et tous les péchés qu'il a confessés lui sont pardonnés. Et placer sa propre vie dans cet homme et par lui manifester ses œuvres. Si nous avons le véritable baptême du Saint-Esprit, alors je me demande, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Vous voyez, Élisée, un type de l'église, a reçu une double onction, une double mesure, et Jésus-Christ a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Car je vais au Père. Vous pouvez appeler ces œuvres-là Belzébuth, des visions, etc. Comme quand ça viendrait du diable. Mais je vous le dis, frère, revenez à la croix, revenez à l'évangile authentique. Nous n'avons pas besoin d'imiter quoi que ce soit. Et pas besoin non plus d'imiter un don. Et pourquoi est-ce que vous voulez des substituts et des imitations? Si vous pouvez avoir la même puissance de la Pentecôte, par laquelle des femmes et des hommes sont rendus des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est là que vous avez ce que Dieu veut faire. Dieu se révèle dans la simplicité, dans l'humilité. Mettez vos pensées de côté et que les sentiments qui étaient en Christ, les mêmes pensées qui étaient en Christ soient en vous. Comme Paul a dit, nous avons les pensées du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Tout doute et toute crainte sont ôtés de vous. Dieu a remis vos péchés, a pardonné vos péchés. Et je vous dis que s'il ne vous envoie pas son Saint-Esprit, après qu'il ait pardonné vos péchés, si vraiment vous croyez au pardon de vos péchés, alors vous devez douter à votre expérience. Ça n'a pas d'importance ce que vous avez expérimenté. Ça n'a pas d'importance quelle position vous pouvez avoir. Quelle roue vous pouvez être. Si vos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ, alors vous vous tenez là, irréprochable, dans la présence de Dieu en tant que fils et fille de Dieu. C'est une parole de la création de Dieu, du Créateur, et que vous prononcez et que la montagne doit se déplacer. Dieu se révèle lui-même, car c'est les pensées de Dieu que vous prononcez, que vous recevez et que vous prononcez. Dieu se révèle dans la simplicité. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'instructions, mais qui croient la parole de Dieu. Père, je te remercie, toi, Créateur du ciel et de la terre, tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants. Et tu t'es révélé à eux. Vous voyez, comme il est écrit dans Ésaïe 53, il a été frappé à cause de nos péchés, frappé, meurtri à cause de nous. Et la condamnation pour notre paix est tombée sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé, il s'est dépouillé jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Nous pensons, n'est-ce pas, à cela, au vendredi de Pâques maintenant. Et la Pâque nous rappelle sa résurrection et le jour de la Pentecôte, une double onction de l'Esprit est venue pour que nous puissions faire ce qu'il a promis. À tel point, nous sommes éloignés de la Pentecôte, de Actes des Apôtres chapitre 2. Dieu, lui, se révèle dans la simplicité, dans l'humilité et dans la puissance. Il se manifeste. Dieu est comme ça. Il se cache dans la simplicité et l'humilité et il se révèle en puissance. Il se manifeste. Il a ramené l'homme par cet abîme qui avait apparu. Eux, ils vont être manifestés dans la résurrection. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une histoire. J'aimerais, pour finir, raconter cette histoire. Dans la Première Guerre mondiale, je crois que cette histoire devrait avoir eu lieu. Mes frères, ou bien alors mes parents, étaient dans la guerre. Et les Allemands, l'armée allemande, avait entouré donc l'armée américaine et ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient sans espérance. Ils ne pouvaient pas sortir de ce cercle car ils étaient entourés par l'armée allemande. Même un avion, s'ils en avaient eu là, aurait été fusillé. Leur armure les plus avancées, les plus grandes, ont failli. L'adversaire avait, et donc leur plus grande stratégie militaire a failli. Ils ne pouvaient pas sortir de ce cercle. Ils étaient encerclés. Mais il y a un soldat qui subitement a vu une colombe qui envoie du courrier. Alors il y a une pensée qui lui est venue. Écris un message et envoie cette colombe avec cette lettre. Peut-être qu'elle pourra atteindre le quartier général et apporter cette lettre, ce message. Cette colombe simple était la blanche. Toute leur puissance militaire avait failli. Et leur réflexion militaire avait failli. Maintenant, ils ont écrit sur une feuille, sur un papier, un message. Et ils ont attaché cette feuille à la patte de la colombe. Et les Allemands ont vu, alors que la colombe était en train de s'élever pour voler. Et ils ont compris que, elle a un message sur ses pattes. Et ils ont essayé de la fusiller. et ils l'ont atteint à ses ailes, à la patte, ici et là. Mais la colombe a continué malgré tout à voler, à partir. Et subitement, elle est tombée dans le camp de l'armée des Américains. Et les soldats américains l'ont regardée, tout étonnés. Elle était, la colombe était complètement blessée et meurtrie, à mort. Mais ils ont vu la feuille à sa patte, ils l'ont pris, mais elle était pleine de sang. Mais ils l'ont vite lu. Et ensuite, ils ont envoyé rapidement du renforcement pour ont délivré ceux qui avaient été encerclés. Oh, qu'est-ce qui s'était passé? Si ce message ne les avait pas atteints. Oh, quel grand devoir a eu cette petite colombe. Le sang était sur le message. Mais le message a été apporté. Imaginez-vous, maintenant, le message a atteint son but, son objectif. Maintenant, les fils de Dieu avaient été tous encerclés. Il n'y avait plus d'espérance pour eux. Ils ne pouvaient plus rien faire. L'espérance était passée. Plus d'espoir. Et maintenant, pas seulement une colombe courrière, mais la vraie colombe. Enfin, aujourd'hui, il y a 1900 ans d'ici, le Seigneur mourut sur la croix. Il est monté au ciel avec son propre sang. De son message, il est monté et il a délivré tous les fils et les filles de Dieu. Et maintenant, ils peuvent vivre dans la sainteté et la pureté, dans sa directe présence. Il a envoyé la colombe, l'esprit, et le message m'a atteint. Quoique le message était plein de sang, mais malgré tout, ils l'ont compris. Je suis libre, je l'ai accepté. Comme c'est simple, les simples peuvent le comprendre. N'êtes-vous pas reconnaissant? Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Il est passé par l'opprobre et la honte. Il a laissé la honte et l'opprobre l'atteindre. Il n'était pas un grand militaire, un général. On a caché, on a détourné de lui le visage. On l'a dédaigné. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos maladies. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il est devenu homme. Jéhovah est devenu homme pour qu'il puisse mourir. Et que son message puisse être propagé. Après qu'il ait versé son sang, nous sommes rachetés. Cela nous humilie. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents. Croyez le message et acceptez la parole de Dieu. Soyez obéissants à l'évangile. Vous aussi, vous pouvez être sauvés et devenir fils et filles de Dieu et vivre dans sa présence, vous tenir dans sa présence. Maintenant, nous voulons courber les têtes pendant que nous lui demandons sa bénédiction. Je voudrais demander quelque chose. Aujourd'hui, nous avons entendu la radio et lu les journaux, etc. On a parlé de cet homme-là qui a porté la croix. Beaucoup de choses on a fait. Ils ont fait. Les hôtels pendant la Pâque sont décorés de fleurs. Et les lapins appelés de Pâques ont pris la place de la vraie signification de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque a à voir avec un lapin? Un animal impur aux yeux de Dieu, interdit de manger dans les temps de la Bible. Et de la même manière, c'est la même chose aussi avec les canards et tout cela. Qu'est-ce que c'est avec eux? Au lieu de la résurrection, au lieu de Christ, on a remplacé cela par un Père Noël. Où est-ce que nous sommes arrivés? Oh, nous sommes sur le chemin de la perdition. Le péché nous a encerclés. Mais un message, il y a plus de 1900 ans d'ici, a pénétré malgré tout. Ce qui était nécessaire a été atteint. Il est monté avec son message et il a amené la délivrance. Dieu a frayé le chemin. Né, devenu chair, un homme sur terre, méprisé, détourné le visage de lui. Oh, vous dites, moi je ne l'aurais pas fait. Comme vous le faites aujourd'hui, vous l'auriez fait autrefois. Est-ce que vous ne voulez pas choisir et marcher le chemin de l'humilité et de la simplicité et dire, Seigneur, Seigneur, ça n'a pas d'importance ce que cela pourrait me coûter et quel en serait le prix. Je ne dis pas, vous fumez, vous buvez, vous êtes mauvais, vous faites ceci, vous faites cela. Croyez la parole de Dieu. Si vous croyez la parole de Dieu, alors vous dites, même si cela vous coûterait votre dénomination, votre position, votre club, votre société de couturière, de couture, ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance ce que cela vous coûterait. Acceptez le message de Golgotha et il vous délivrera. Humiliez-vous à partir de ce moment-là, vous femmes. Vous allez laisser pousser vos cheveux, même si on vous appelle rétrograde et vieille mode. Et même si on vous dit, vous avez une apparence de pâle, vous semblez pâle et vous êtes comme mort. Oui, vous êtes mort en Christ, en Christ. Cela ne vous dira rien qu'on se moque de vous. Acceptez le message humble et simple. Restez ici, restez devant Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit déversé dans mon cœur, que cela soit votre prière en vous chacun individuellement. Vous voyez, vous êtes comme venu par un pont traversant l'abîme et vous croyez le plein évangile. Vous êtes revenu par le pont que Dieu a placé. Est-ce que vous voulez vous consacrer à Dieu? Alors levez vos mains et dites, frère Branham, pense à moi dans ta prière. Que Dieu vous bénisse. Il voit vos mains. Notre Père céleste, humilité, humble, de te croire dans la simplicité. Tu t'es révélé dans la simplicité. Comme dans ces jours et dans d'autres temps, nous le constatons. Comme les églises et les communautés passent à côté de toutes ces choses. Mais malgré tout, tu parles et tu oins ta parole. Mais elle est rejetée. Mais ensuite, tu jugeras le monde. Oh Dieu, aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses. Pendant 50 ans, l'Esprit de Dieu a agi. Et les hommes ont essayé d'accepter des dogmes malgré tout. Mais tu as révélé ta puissance. Tu t'es révélé parmi un troupeau humble. Un petit troupeau de personnes qui sont rejetées. Mais qui sont sorties de tout. Tu t'es révélé dans ce troupeau. Maintenant nous les voyons dans une autre génération. Maintenant nous les voyons. Ils veulent être de grands enfants de Dieu. Des petits, quel temps terrible quand nous savons que Dieu n'a pas de petits enfants et ils veulent être des petits enfants. Dieu a que des enfants. Oh, vous qui avez levé vos mains, que tu puisses bénir tous et qu'ils puissent trouver la paix de Dieu et qu'ils soient remplis de ton esprit et qu'ils puissent croire et que des miracles soient manifestés et croire à vivre une vie de Dieu, à vivre une vie divine et même d'être plein d'amour quand on parle mal d'eux et ne répondez pas par des paroles mauvaises quand on vous parle avec des paroles mauvaises et même si on vous frappe, il redonne un baiser, il rende cela par un baiser, qu'il puisse rendre le mal par le bien. Oh, faites de nous de telles personnes. Et faites de telles personnes qui puissent vivre dans la puissance de ta résurrection, que ta mort n'ait pas eu lieu en vain pour nous. Dans cette génération, que tu puisses manifester ton Église et te révéler en elle. Et prends-la dans la gloire. Que tous ceux qui cherchent Dieu dans cette heure le trouvent. Pendant que nous avons les têtes courbées, je voudrais demander, est-ce que vous voulez encore faire un pas? Est-ce que vous vous lèverez alors, si vous n'avez pas honte? Vous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, quoi que vous soyez, vous n'avez pas honte, n'est-ce pas? Et vous dites, je reconnais que j'ai mis ma confiance dans beaucoup de choses que je pensais être vraies, mais jamais j'ai vu l'Évangile agir dans ma vie. Je crois à la promesse et je veux croire en elle. Et si je crois ceci et cela se passera, mais cela se passe pas, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car la Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Car la Bible le témoigne, mais rien ne se passe dans ma vie. Alors j'ai honte de ça et je veux que le monde le sache, que tu le saches, oh Dieu. Et je veux être sincère et être un vrai témoin dans ma vie du plein évangile de Jésus-Christ que par ma vie je peux manifester. Je veux être un tel témoin de ta résurrection. C'est vrai. Le Seigneur Jésus disait, si vous avez honte de moi, moi, j'aurai aussi honte de vous devant mon Père Céleste. Vous tous qui veut le recevoir ce baptême et qui vous tenez là en tant que fils et fille de Dieu. Signe miracle. Je ne parle pas de croyants fabriqués. Je parle des choses originales de Dieu, sans imitation. Si vous parlez à cette montagne, déplace-toi. Croyez-vous, maintenant, c'est votre temps. Bon, vous dites, j'ai déjà essayé auparavant, mais si vraiment vous avez faim de Dieu, vous vous tiendrez là. Et vous êtes décidé comme cette femme autrefois. Vous voyez, elle croyait et elle attendait jusqu'à qu'elle ait reçu. Jusqu'à qu'elle a reçu. Oh, c'est cantique merveilleux. Il a été frappé à la croix pour moi. Là-bas, à la croix pour moi. Il mourut pour moi là-bas. Je veux que Dieu soit dans ma vie et que elle soit transformée réellement par lui. J'ai vécu et j'ai pensé et j'ai espéré, mais je veux savoir aussi les apôtres à chaque fois rencontraient la cible, à savoir qui tirait. Comment ça devrait être avec nous? Si autrefois c'était à l'œuvre, c'était agir, efficace, c'était à, la parole de Dieu doit être aujourd'hui la même, telle que ça a eu lieu autrefois. Cela aura lieu aujourd'hui si nous croyons la même chose. Si Dieu était Dieu autrefois, il est Dieu encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si votre dénomination ne croit pas cela, laissez votre dénomination croire ce qu'elle veut, mais vous croyez Dieu, croyez la Bible. Croyez la Bible. Il y a encore 8 ou bien 10 personnes qui se sont levées encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y en a beaucoup encore, d'autres qui se lèvent, encore beaucoup. C'est bien. Vous dites, je suis sincère, frère Branham. Je voudrais faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Avez-vous entendu l'enregistrement où j'ai parlé des 7 tonnerres qui ont retenti là-bas alors que j'étais en train d'aller à Tucson? Le temps est là. N'attendez pas longtemps encore. Comment est-ce que vous savez que l'enlèvement est en train maintenant d'être préparé déjà maintenant? Un jour, il aura eu lieu. Et le jugement va frapper la terre. Et vous allez dire, mais je pensais que ceci et cela devait d'abord s'accomplir. Mais ça aurait été trop tard. Pensez à cela, ils ne l'ont pas su. Jusqu'à que Noé et les autres entrent dans l'arche. Et les vierges folles ne l'ont pas reconnu. Quand ils sont revenus, c'était trop tard. La porte était fermée. Aucun vrai docteur croit que l'épouse passera par la tribulation. L'église, c'est vrai, passera par la tribulation. Mais pas l'épouse. Non. Israël, les 144 000 vont passer par la tribulation. Mais pas l'épouse. L'épouse, elle va dans l'enlèvement. Elle va dans l'enlèvement, dans la gloire. Je crois que bientôt, un jour, le dernier sera appelé. Et ce sera un enlèvement mystérieux. Je viens dans une heure que vous n'attendez pas. C'est ce que a dit le Seigneur. Et ce sera trop tard. J'arrive à un moment où vous ne vous attendez pas. Oh, si vous allez dire, oh, si j'avais seulement pris ma décision. Si j'avais pris au sérieux ma préparation. Mais ce sera trop tard. Si vous vous sentez dans l'assurance et réfugié en Christ et que vous ressentez que vraiment vous avez reçu le Saint-Esprit qu'il est dans votre cœur et qu'il vit en vous et que le sang vous a lavé, les signes vous suivent et que les œuvres de Christ sont manifestées. Si vous le croyez, c'est bien. Cela dépend de vous. Si ce n'est pas encore comme ça avec vous, vous devriez vous lever. Vous voyez, Jésus l'a promis. C'était les confirmations qu'il est le Messie. Aujourd'hui, c'est notre confirmation. Ce sont nos confirmations. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Je suis étranger de beaucoup de vous. Beaucoup de vous m'ont considéré comme un voyant. Mais moi, je ne l'ai jamais dit. C'est vous qui l'avez dit. Vous croyez maintenant, vous me croyez en tant que le serviteur de Dieu. Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se serait pas accompli? Si c'est le cas, dites Amen. Jamais, jamais il y a eu de ces milliers de choses que je vous ai dit. Il n'y a rien qui a failli. À chaque fois, c'était la vérité. Dans le monde entier, cela est connu. Même si avec moi dans l'enseignement, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas un théologien. Je ne fais que dire ce que je comprends. Je ne peux que dire ce que la Bible dit. Jamais je vais accepter quelque chose si ce n'est pas selon les Écritures. Si ce n'était pas selon la Bible. Dieu, lui, il confirme cela par les Écritures. Cela doit être selon les Écritures. Écoutez-moi maintenant. Si vous me croyez être un messager envoyé par Christ Jésus et que vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu, venez maintenant. Les choses n'iront pas mieux dans ce monde, elles vont plutôt s'empirer. L'état de ce monde. Écrivez-vous cela sur une feuille, pensez à cela, le tas du monde va s'empirer et voyez si cela est vrai ou faux. Regardez. Les choses ne vont pas devenir meilleures. Elles vont s'empirer. Et ça va devenir plus difficile. Le réveil est passé. C'est seulement donc l'après-moisson sur le champ. Vous dites, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est OK. Mais ça, c'est ma conviction. Je crois que le temps de l'âge de la Odyssée est celui dans lequel nous vivons, cet âge pentecôtiste-là, tiède, et Dieu les vomit de sa bouche. Ça, c'est l'état du mouvement pentecôtiste qui est arrivé dans cet état. Ils ne sont pas gluants, donc rouges comme du feu, et ni froids comme la glace, mais tiède. Ça, c'est cet âge. Vomi de sa bouche. Le seul et unique âge où Jésus est dehors et à l'extérieur. Et il frappe et il veut entrer. Il dit, c'est qu'écoute ma voix. Je suis heureux de ce qu'aujourd'hui vous avez écouté sa voix. Je peux seulement vous demander. Jésus-Christ vous regarde. Il a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si cela n'est pas vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de création, il n'y a rien. Alors, même la vie donc n'est même pas une réalité, donc vous n'êtes même pas ici, vous n'existez même pas. Ça veut dire que c'est seulement une imagination. Non, c'est impossible que vous ne soyez pas ici. Si vous demandez quelque chose, il vous l'accordera. Donc c'est impossible qu'il ne soit pas là, parce que vous êtes là. Maintenant vous êtes levé comme témoignage que vous voulez le recevoir. Votre présence est une preuve qu'un créateur existe. Priez, parlez au Seigneur et dites dans votre cœur. Nous avons assez de temps, ne vous dépêchez pas. De votre propre manière, comme toujours, je sais qu'il y en a qui se lèvent, il y en a qui se mettent à genoux. Non, comme vous le voulez, comme vous le ressentez. Ne dites pas, Seigneur, laisse-moi ceci, laisse-moi cela. Non, non. Dites, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis sincère, je le pense réellement, je le désire. Si vraiment vous le désirez de tout votre cœur, alors cela doit avoir lieu. Dieu connaît votre cœur. Si c'est un désir qui vient réellement de votre cœur, qui est sincère, Dieu vous l'accordera. C'est impossible que cela ne se passe pas. Il a promis. Et il veut habiter dans votre cœur, venir dans votre cœur. Ne vous ouvrez pas seulement un peu et dites, viens seulement jusqu'ici, mais ne va pas plus loin. Non, mais ma vie privée, ma façon de m'habiller, tout ça, ça me regarde. Il vous veut entièrement, il veut tout ce que vous êtes. Chaque partie de votre vie, chaque porte de votre cœur. Il ne veut pas seulement une partie, il ne veut pas seulement entrer. Il veut être le Seigneur. C'est-à-dire posséder votre cœur. Il veut vous posséder. Il veut vous conduire, pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous remplir, pour vous utiliser. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Si oui, alors il est prêt lui aussi à venir. Sinon, il ne se tiendrait pas là. Maintenant, c'est l'heure où vous devriez le recevoir. Ça dépend de vous. Si vous croyez cela, alors cela sera réglé. Cela sera un soir qui restera dans votre mémoire. Même si vous restez ici toute la nuit, vous dites, Seigneur, je me suis levé, je reste là debout. Je ne vais pas partir d'ici jusqu'à que je l'ai reçu. Et si ce n'est que vous le pensez réellement ainsi, et si vous dites, Seigneur, accorde-moi ce soir, je viens d'être prié. Sinon, bon, peut-être demain. Non. Comme ça, vous n'allez pas le recevoir. Non. Comme ça, vous recevrez plein de Dieu. Bon, si tu ne le reçois pas aujourd'hui, bon, demain. Non. Vous devez venir d'une manière que c'est entre la vie et la mort. Et vraiment le désirer. Comme si il a promis. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que nous utilisons le temps? Si la promesse n'est pas vraie, quoi alors? C'est peut-être raison que je peux me tenir là et dire au monde, est-ce que la parole a déjà failli? La parole de Dieu a déjà failli? Est-ce qu'une promesse de Dieu a déjà failli? Ce qui a été promis s'est accompli. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu n'as pas peur? J'ai dit non, pourquoi? Ce n'est pas ma parole que je prononce. C'est ta parole, la parole de Dieu que je prononce. Je peux poser la question au monde entier. Où est-ce que quelque chose aurait été dit qui ne se serait pas accompli, qui est sorti de la bouche de Dieu? Des milliers de choses se tiennent là en tant que témoins. Et des milliers de personnes se tiennent là en tant que témoins. Jamais cela a failli. Car c'est la bouche de Dieu qui a prononcé, ce n'est pas un homme qui a parlé. Cela doit s'accomplir. Et Dieu est maintenant ici. Christ est parmi nous. Il est prêt à vous accorder le Saint-Esprit. Si vous êtes prêt à l'accepter, vous n'avez pas besoin de payer le prix, car le prix est déjà payé. Christ, cet après-midi, d'autrefois, a payé le prix sur la croix du calvaire à Golgotha.
ôtez tout doute et crainte. Levez les mains et dites, « Oh Dieu et Seigneur, je suis ici. Je me tiens ici au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous. Priez aussi. Seigneur Jésus, dans l'humilité et dans la consécration, je me donne, je te remets tous ceux qui se sont levés et toute cette assemblée, tout ce groupe de personnes et qui ont réagi à l'appel et qui l'ont répondu, qui ont répondu après avoir entendu que le sang de Jésus purifie fondamentalement, entièrement et que rien d'impur reste, que toute la parole de Dieu entièrement, dans toute son entièreté, parfaitement, peut être en eux. C'est peut-être donc qu'en eux, il y a la puissance créatrice, le Saint-Esprit, parce que la parole dans toute son entièreté et dans toute sa perfection est en eux. Ils l'ont accepté comme ça. Alors tu permets que ce qui est écrit dans ta parole se passe et que toutes tes pensées sont mises dans ta parole qui nous sont accordées, nous les prononçons. Alors Dieu lui-même est en action. Il agit, il apparaît. Et je te demande, Seigneur, maintenant, que tu puisses accorder le Saint-Esprit à tous et que la puissance de la résurrection du Christ puisse venir sur eux. Après, qu'il ait réellement désiré de tout leur cœur le baptême du Saint-Esprit et tout ce dont ils ont besoin et demandent que tous ceux qui écoutent ici soient éclairés et remplis de la puissance de Dieu. Je te les remets, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains, gardez vos mains levées, continuez à prier, demeurez dans la prière, croyez. Remplis-moi, remplis-moi, sauve-moi, Esprit du Dieu vivant, frère Branham chante. Répands-toi de manière fraîche sur moi. Maintenant, il chante ce cantique. Tombe sur moi. Réponds-toi sur. Dites, Seigneur, Seigneur, je reste là. Je reste devant toi. Comme il est parlé de ce juge injuste dans Matthieu, mais dans Luc 18. Dans Luc 18. Je suis ici. De ce juste méchant. Restez là. Restez là. Comme en mémoire. Restez là. Comme un monument. Restez là. Ça n'a pas d'importance que quelqu'un me voit, que mon pasteur me voit. Je me tiens ici et je regarde à quelque chose. Quelque chose doit se passer avec moi. Tu l'as promis. Je suis ici pour l'accepter. Cela s'est passé avec d'autres. Cela doit se passer aussi avec moi. Je ne quitte pas cet endroit. Je suis décidé